Popol Talks, le podcast d'entretien de Popol Media, le média qui propose un regard féministe sur la politique.
Bonjour, bonjour, bienvenue sur Popol Talk.
Bonjour.
On a commencé l'enregistrement en off, en fait. J'avais pas appuyé sur le bouton. Mais
ça
peu
arrive,
importe.
Ça
mais oui, c'est les joies du direct. Enfin, on n'est pas en direct, mais dans les conditions du direct.
C'est ça.
Et voilà, donc très heureuse aujourd'hui d'accueillir mon invitée du jour, Claire Touzard. Bonjour Claire.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Bah, très bien. Tout marche.
Tout marche, ça y est, oui,
c'est merveilleux,
oui.
Plein de couleurs, oui. C'est beau.
On a accès en fait au studio de la Gaîté Lyrique. J'ai eu la chance d'être en résidence pendant quelques mois à la Gaîté Lyrique qui me met à disposition gratuitement son super studio de podcast. Donc je suis très très contente. Et il se trouve qu'on a un petit joujou avec nous. On a une machine pour enregistrer et on peut faire des sons.
Si vous voulez.
Ça, c'est trop bien. Et du coup, pour t'introduire, je vais choisir, je ne sais pas, quelle couleur tu veux.
Celle-là, la verte.
Verte, allez.
Ça me va très bien.
Je crois que ce n'était pas la bonne.
Non, mais la verte.
Ah, le turquoise, donc.
Turquoise, pardon. Mieux.
Oui,
enfin, c'est un peu cirque fin d'heure, mais...
Un peu, ouais. C'est... Bon, franchement, les gens qui ont donné pour la campagne de crowdfunding doivent se dire, mais pourquoi rembourser.
Est-ce une rembourser. Magicienne, une clown qui est invitée?
Allez, okay. On en a encore un à essayer. Ah! Ça, il est bien.
Celui-là, je veux bien dès que j'ai quelque chose d'intelligent.
Oui,
ça sera
oui.
Merci.
Ou de drôle, du coup.
Ou de drôle, ouais.
Plutôt. Bon, ça suffit. Claire Touzard, qui êtes-vous? Non, c'est trop tentant. J'arrête.
Claire, je me lance dans le stand-up.
Ah.
J'adorerais, non?
Mais bon. Tu penses que tu pourrais
Écrire les textes ou... Je sais pas. Non.
Les deux?
Non, ça demande vraiment... J'ai une amie, Marina Rodman, qui en fait très, très bien. Et face à son talent, en fait, énorme, je m'écrase.
Ouais, j'avoue. Alors, autant faire des blagues comme ça, tu vois, genre sur le vif. Je trouve que c'est accessible, mais écrire des blagues, c'est chaud, quoi.
Ouais, écrire des blagues et puis les jouer, quoi. Il faut
mais
quand
ouais.
même une certaine intonation, etc. Je suis pas sûre, quoi. Je suis... Non.
Ouais.
Je suis pas sûre de mes talents de comédienne, encore.
Ok, bon, bah...
Après, ça, c'est une reconversion, enfin, possible, hein, tout est possible, enfin...
Ouais, mais du coup, on va commencer par le début. Qu'est-ce que tu fais actuellement, déjà?
Qu'est-ce que je fais de ma vie, déjà?
Eh oui, qui êtes-vous? Que faites-vous?
Alors, dans la vie, j'écris des livres et je suis anciennement reporter et réalisatrice. Et je me remets récemment au journalisme, entre autres à travers un podcast bientôt. Voilà, c'est... je suis également scénariste pour des séries télé.
Tu fais tellement de choses que tu en avais même oublié.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Beaucoup de choses très bien payées, n'est-ce pas?
Ouais, bah, oui, bien sûr.
Parce qu'on sait qu'être autrice, c'est vraiment c'est une profession qui rapporte.
Non. Et non, hélas, non. Hélas,
comme
non.
Scénariste aussi, c'est pas mal.
Ouais, c'est bien. Tu as choisi des bons boulots, toi.
Ouais, bah, ouais, tu vois, cool. C'est des
métiers passion. Aussi.
L'enfer
journaliste.
Des métiers passion, tu sais. Journaliste aussi, ouais.
C'est pas mal dans le genre aussi. Ouais. Non, effectivement, il y a un autre truc que je vous recommande si vous voulez vraiment vous faire ma de thunes, c'est fonder un média.
Oui, ça c'est vrai.
Féministe
c'est vrai.
De gauche.
Ouais.
Excellente idée.
Ouais.
Très rentable. Mm-hmm. D'ailleurs, n'oubliez pas de faire un petit don à Popol Media, comment je te l'ai calé.
Je veux bien un don.
Attends, on va faire un petit.
Ouais. Il était bien, c'est vrai que c'était une belle transition.
C'était bien placé. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton podcast? T'as le droit de spoiler?
Pas encore. Non, pas encore.
Bon, bah
pas
du
encore.
Coup, il faudrait qu'on soit en attente.
Ce sera, voilà, c'est pour teaser un peu, c'est en mai qui sortira.
Mai, okay.
C'est sur une très belle plateforme et je suis heureuse. Ce sera un format un peu hybride en plus, assez original, j'aime bien.
On aime, on adore. Ouais. Donc du coup, pour ne rien louper, il faut qu'on te suive sur les réseaux sociaux, sur Instagram surtout.
Tout à fait, oui, je suis surtout sur Instagram parce que j'essaie de ne pas me disperser. Je trouve que ça prend, c'est déjà assez chronophage comme ça. Donc je suis @ClaireTouzard, voilà.
Et ben voilà, allez voir ça et puis vous verrez la surprise du mois de mai. Bien. Donc, du coup, tu nous disais aussi que tu es autrice. Moi,
oui.
C'est comme ça que je t'ai connue, je dois avouer, à travers ton tout premier livre,
ouais.
si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelle « Sans alcool
mm-hmm. »,
qui a été publié en 2020.
Ouais, il y a 4 ans.
C'est bien ça.
Mm-hmm.
Qui a été un best-seller, on peut le dire,
oui.
hein, clairement.
Tout à fait.
Donc, voilà.
On peut le dire.
Et malgré ça, elle n'arrive pas à vivre de son métier d'autrice. C'est dire quand même, hein. Purée.
Les gens ne lisent pas.
Passé,
non, mais
ouais.
c'est-à-dire, c'est ça qui est fou, c'est qu'un best-seller, finalement, c'est par rapport à, par exemple, un visionnage de série, où c'est pas grand-chose, quoi.
Bah ouais, ouais. Bah, c'est surtout qu'en fait, on récupère pas grand-chose, en fait, sur les bouquins.
Bah non, c'est 1 euro et quelques, et puis passer la barre des 10 000, ça passe à 2, mais bon, c'est vraiment rien sur un livre qui coûte 20 euros, quoi.
Ouais, c'est clair. Et donc, dans ce livre, je me permets d'en parler parce qu'on est encore dans une période de dry January,
tout
pour
à fait.
Celles et ceux qui le suivent. C'est un peu un journal de bord de ton parcours vers la sobriété. Et il se trouve que, je vais raconter un peu ma vie, parce que, bah, après tout, pourquoi pas, hein, je veux dire. Moi, j'ai lu ce livre quand j'ai décidé de faire un dry, pas du tout en janvier, parce que, bah, voilà, pourquoi pas en mai, finalement.
Pourquoi pas.
Bah voilà, le dry du mois de mai. Et je l'ai lu, et c'est assez drôle, parce que j'avais l'impression que tu m'accompagnais.
Oh, c'est
ouais, c'est vrai. Et du coup, j'ai développé une certaine affection pour toi,
oh,
je dois le dire. Mais c'est vrai que c'était très réconfortant, en fait. De devoir faire ces efforts, parce que je l'admets, j'étais à une période de ma vie où je buvais très régulièrement, beaucoup trop, de toute évidence. Et c'est là où je me suis dit, ok, là, il faut que j'arrête, ça devient un peu n'importe quoi. Et j'ai décidé de lire ton livre en même temps, et c'était vraiment très, 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 à la fois encourageant, réconfortant et énervant un peu, parce qu'en fait, on se rend compte à quel point on est enfermé dans un alcoolisme qui ne dit pas son nom. On ferme beaucoup les yeux, en fait, sur les ravages que peut avoir l'alcool, en fait, sur nos vies, sur la société. Et c'est ça que j'ai aussi beaucoup apprécié dans ton ouvrage, c'est que tu, au-delà du récit individuel et personnel que tu explores à travers cet ouvrage, il y a aussi tous les enjeux politiques, sociétaux, économiques aussi, que tu traites. Et voilà, donc je me suis dit que c'était peut-être l'occasion pour celles et ceux qui nous écoutent de te donner la parole pour en parler un petit peu en cette période, parce que peut-être qu'il y a des gens qui ont envie, en fait, et qui ont besoin de ce soutien-là. Et qui trouverait peut-être un soutien en lisant ce livre.
Ce qui est étonnant surtout, c'est qu'il continue à vivre. Hein. C'est-à-dire que 4 ans après, là, au mois de janvier, surtout pendant le Dry January, c'est incroyable comment j'ai été invitée encore à en parler, à quel point je reçois des messages sur le sujet. En plus, il y a une nouvelle vague de personnes maintenant qui écrivent des livres aussi dessus, tout ça. Donc, c'est une sorte de continuum. Parce que le Dry January est vraiment rentré dans les mœurs en France. C'était pas le cas quand je l'ai écrit, surtout que Macron ne voulait pas le défendre. Il avait même annulé le soutien du gouvernement après le lobby, après la pression des lobbies alcooliers, donc en 2020. Donc je vois vraiment le parcours, en fait, le changement de mentalité. C'est hyper agréable. L'autre jour, j'étais à une soirée, il y avait 3 filles, je crois, qui ne buvaient pas. Ça n'arrivait jamais avant. Après, bon, avec l'âge, ça arrive un peu plus, mais quand on vieillit. Mais c'est vrai que c'est un livre dont le succès m'a un peu dépassée presque, parce que je l'ai écrit de façon assez spontanée, même si il flirte un peu avec l'essai et que j'ai, en fait, à travers l'alcool, l'idée était de montrer une certaine vision de la France aussi. En fait, c'était ça qui était important pour moi, parce que j'ai grandi avec tout cet univers très chargé sur l'alcool. L'univers masculin, en l'occurrence, l'univers très libertin, jouisseur, des termes qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui, par exemple, en parlant de Depardieu ou de Gainsbourg, etc. Et donc, toute cette France qui se définit, en fait, par le verre d'alcool, qui se définit par la propension à boire, à...
Le bon vivant.
Le bon vivant, voilà. C'est vraiment une culture, en fait, au-delà d'une consommation. Et c'est vrai que l'alcool, finalement, cristallise énormément de questionnements. Et donc, que ce soit le rapport à la masculinité, à la féminité en France, que ce soit les enjeux économiques, hein, parce que c'est quand même, on est producteur de vin. Donc, il y a vraiment, ça a ouvert un sas de questions assez énorme. Encore depuis 4 ans, j'ai fait énormément d'émissions sur le sujet, et chaque fois, c'est des thèmes ou des angles différents. J'ai fait des recherches aussi historiques, et donc c'est passionnant en fait. Il y a encore beaucoup de choses à dire, je trouve.
Ouais, en effet. Et puis il y a aussi ce qui m'a beaucoup touchée aussi dans ton livre, c'est que tu fais preuve de vulnérabilité, et c'est quelque chose dont on n'est pas habitué en fait. C'est-à-dire que tu es finalement le personnage principal dans cet ouvrage, un peu l'héroïne que l'on suit au fil des pages, et tu admets en fait tes failles. Et c'est assez particulier parce qu'on est dans une société où on glorifie la réussite, où finalement, et de simplement dire en fait, ouais, je pense que je suis alcoolique, c'est quelque chose qui est très difficile.
Après moi, je fonctionne vraiment comme ça, et c'est même mon prisme pour travailler en général, c'est que je pars de moi en fait, de mes erreurs et de mes échecs, de mes réussites parfois, ça peut arriver aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, que je me dis en général, ce que je vis, ce que je traverse, beaucoup de gens le traversent aussi. Et donc, ça ne sert à rien d'essayer d'inventer un personnage ou quoi que ce soit, et plutôt de se poser la question de pourquoi la souffrance, pourquoi cette blessure, pourquoi... Et c'est vrai que l'alcool, c'était d'autant plus intéressant qu'avec l'alcool, j'avais construit un personnage de femme assez fort, et beaucoup enfermé dans un déni. Et que finalement, quand j'ai quitté cette habitude de consommation qui était centrale dans ma vie, hein, parce que pendant 20 ans, j'ai bu énormément, c'était un moment d'extrême vulnérabilité. Et je n'avais pas à m'en cacher, parce que j'étais fière dans le même temps de me sevrer et d'essayer d'être une plus chouette personne. Ou plus chouette, j'en sais rien, mais en tout cas, qui se détruit moins et donc qui va vers quelque chose de mieux. Et donc, c'était important d'être honnête et sincère.
Ouais, et puis aussi quelque chose de très important sur laquelle en plus tu es revenu à plusieurs reprises par la suite après la publication de l'ouvrage, c'est l'importance de ne pas juger en fait.
Oui, de pas juger. Et puis, moi, j'aime bien étudier les failles des gens plus que leur réussite en fait. Je trouve que ça dit beaucoup de choses. On échoue beaucoup, nous, en tant que femmes, mais souvent, ce n'est pas notre faute non plus, parce qu'il y a une responsabilité sociale au-dessus, etc. Et donc, je suis beaucoup sur les questionnements aussi de responsabilité de l'individu, de la place qu'on lui donne dans la société pour réussir. Enfin, je trouve que c'est... et parfois, on n'arrive pas, et parfois, on galère, et parfois, on échoue, et c'est comme ça. Et je trouve que c'est... Et depuis, sans alcool, j'ai encore échoué plein de fois. Et j'ai plein de choses à dire de ces échecs. Voilà. Et c'est... Et je trouve que, oui, cette honnêteté-là, je veux la préserver dans mes livres, en tout cas. C'est important. Et c'est vrai que je pense que c'est ce qui a beaucoup étonné quand il est sorti, cette vulnérabilité-là. Et pour moi, je pense qu'au contraire, elle est un point de départ de réflexion, vraiment intellectuelle, en fait. C'est permettre de voir les choses telles qu'elles sont, aussi, et non en fonction de constructions et de normes. Finalement, ça rejoint un peu des questionnements féministes, en fait, parce que c'est accepter, voilà. Moi, je suis l'anti, femme puissante, enfin voilà, j'ai jamais aimé ces imaginaires en fait de femme cadre puissante, you can have it all et tout ça de Sheryl Sandberg. Enfin moi, je suis un peu l'anti ça, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai galéré, j'étais une loseuse, je viens pas d'une famille, enfin j'avais pas de thunes quand j'étais étudiante, enfin voilà, c'est ma vérité, mais ça m'a construit aussi et ça a construit mon écriture, et j'en suis fière maintenant en fait, voilà.
Alors c'est marrant parce que tu viens de dire quelque chose là il y a quelques minutes, t'as dit j'avais pas besoin de créer de personnage. Mais t'as fait ça après, dans ton deuxième ouvrage qui est un roman, tu as créé en l'occurrence une personnage qui s'appelle Frankie,
oui,
qui travaille dans un magazine féminin, qui est féministe. Et donc Frankie, à travers son histoire, tu traites de la question de la toxicité, des rapports aussi de domination au travail, mais pas que, aussi dans la vie intime et dans la vie personnelle, si tu veux un peu nous en dire davantage.
En fait, c'est un peu le même... quelque part, Frankie, c'est quelqu'un de féministe qui vient d'un milieu assez simple, etc. Et en fait, qui se retrouve dans un univers du journalisme féminin qui est très axé sur la mode et les paillettes, etc. Alors qu'elle veut essayer de garder sa vérité. Et en fait, c'est un univers qui est un peu une drogue aussi, hein, le capitalisme, la notoriété, etc. Donc, ça traite un peu des mêmes sujets finalement que Sans Alcool. C'est un peu ce personnage aussi qu'elle va finalement se créer pour rentrer dans cet univers qui est très loin du sien et en fait où elle va échouer finalement, encore une fois, à y arriver, mais qui va être une très bonne leçon pour elle. Puisqu'en fait, elle va se rendre compte que ce système fonctionne de façon à éliminer les plus précaires, en fait. Et donc, voilà, c'est inspiré, évidemment, de mon histoire, puisque j'ai été dans un journal féminin. Et c'est beaucoup... en fait, moi, j'ai vraiment été nourrie à la littérature, à la Tom Wolfe, un peu, en fait, vraiment sur les analyses des faux-semblants des systèmes qui nous gouvernent, des critiques assez satiriques, en fait, américaines. Et sans me prétendre du tout de Tom Wolfe, loin de là, mais ce que je veux dire, c'est que ça a été la littérature qui m'a bercée, et en fait, c'est ce que j'ai essayé de faire un peu avec Féminin, c'est-à-dire à travers le personnage de Frankie, d'essayer de révéler les dessous d'un milieu assez pourri à la sève, en fait. Voilà.
C'est clair. Et moi, ce que j'aime aussi, et je dois le dire, je te le disais tout à l'heure en off, hein, et c'est pas du tout pour te lécher les bottes, parce que ce serait quand même dégueulasse, littéralement. mais c'est vraiment... d'arriver à trouver des autrices actuelles qui ont à la fois cette capacité d'apporter une critique vraiment de l'ordre journalistique, en fait, hein, mais qui ont aussi cette capacité à écrire avec une très, très belle plume. Parce que moi je trouve, j'adore ta plume, en fait.
Et, ah, merci.
Je l'ai adorée dans Sans Alcool. Alors, c'est un autre style avec Féminin, parce qu'en plus, c'est d'un autre genre littéraire que tu explores. Quel est ton rapport à l'écriture, à la littérature? On sent, enfin, je peux me tromper, hein, mais on sent dans Féminin que c'est quelqu'un qui lit beaucoup, qui écrit.
C'est quelqu'un qui lit beaucoup, mais encore une fois, c'est vrai que pendant longtemps, j'étais assez complexée parce que je lisais beaucoup, beaucoup de littérature américaine et peu de littérature française. En fait, par exemple, des David Foster Wallace, beaucoup d'écrivains et d'écrivaines qui, finalement, ont ce regard-là qui est un peu... qui a un pied dans chaque univers, quoi, qui ont un regard presque sociologique, en fait, sur les choses. Moi, j'ai lu beaucoup de sociologie aussi. Mmh. J'ai étudié la sociologie à l'université, Bourdieu, etc. Et je crois qu'en fait, il y avait un désir d'assembler un peu tout ça, c'est-à-dire la littérature et en même temps de la désacraliser en l'emmenant parfois vers l'essai, en l'emmenant un peu vers la satire, en l'étirant vers autre chose qui puisse donner un regard, en fait, assez politique, en fait. Mmh. Et ça, c'est vraiment ma conception de la littérature. Et c'est aussi la littérature que j'aime lire. Française aussi, hein, parce que je me suis mis entre temps, quand je parle de littérature américaine, j'étais mes jeunes années, de vingtenaire. Et maintenant, j'aime lire Florence Aubenas, j'aime lire Carrère. Après, en américaine, il y a Susan Sontag, Joan Didion. Enfin, j'ai cette appétence, en fait, pour ces formats un peu hybrides de penseurs qui passent par la fiction, en fait. Voilà. C'est ce qui me plaît.
Oui, c'est assez intéressant. Tu travailles sur un nouveau livre ?
Oui, je travaille sur un nouveau livre qui, pareil, est une forme d'autofiction, mais qui tire vers l'essai sur la santé et la santé mentale et qui est en fait un peu une suite de Sans Alcool.
Ok, super, voilà. Bah, on a hâte.
Bah ouais, bah, c'est sur des failles aussi, toujours. Mais encore une fois, je pense que cette analyse des failles, elle est intéressante parce qu'elle elle permet d'aller justement voir... tout ce qu'on se cache et qui dit beaucoup finalement de la société, quoi, en fait.
Ça, c'est sûr. Et justement, il y a la société, bien sûr, qui est très imprégnée dans ton travail, dans ton écriture, dans tes ouvrages. Il y a la politique aussi, qui est très présente. C'est quoi ton rapport à la politique aujourd'hui, toi ?
Alors, mon rapport à la politique, je suis pas, je dirais, spécialiste comme toi, par exemple, du politique, mais je vais passer par plutôt la pensée, c'est-à-dire sur des penseurs et des penseuses de la politique, par des réflexions féministes. Je vais lire beaucoup là-dessus, sur le postcolonialisme, sur énormément de choses qui m'intéressent. En fait, ce qui est intéressant, c'est que, à la base, j'étais reporter et donc j'ai commencé à questionner des choses que je voyais sur le terrain, dans le monde entier. Mmh. Et c'est ça qui m'a amenée à des lectures sur la politique, mais sur certains sujets, en fait. Et très vite, par exemple, je me suis intéressée au postcolonialisme, parce que j'ai été en Afrique du Sud plusieurs fois pour traiter des stigmates de l'apartheid et, en fait, de la mouvance des jeunes générations qui essayaient de rétablir une sorte d'égalité dans un pays qui est encore très divisé, en fait. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à lire sur la Palestine, sur des penseurs, etc. Donc, je pars toujours de quelque chose de terrain pour ensuite m'intéresser au sujet de façon plus large en rassemblant des penseurs et des penseuses et des articles dessus, en fait. Voilà, c'est ma façon de fonctionner.
Ouais, ouais. On sent effectivement que la recherche a une place importante dans tes travaux. Est-ce que tu t'imagines peut-être faire une carrière académique à un moment donné ?
Alors, oui et non, j'ai toujours eu cette envie. Mmh. Et en même temps, justement, je pense que je suis... En fait, ce qui a forgé aussi mon esprit, c'est que je n'étais pas assez universitaire. J'étais un peu rebelle, en fait. Et j'ai finalement... j'ai beaucoup appris aussi par l'expérience et hors des chantiers académiques. Et je pense que j'aurais du mal à, aujourd'hui, peut-être faire une carrière de chercheuse. Ou... J'aime bien être un peu en marge, en fait. Je dois avouer que ça me permet d'être plus libre aussi. Parce que, en fait, dans mes travaux, ce que j'aime, c'est qu'il y a une part de recherche. Et je me laisse toujours une petite part de liberté de penser, en fait. J'essaye d'amener une nouvelle pensée. Alors, parfois, je rate, mais parfois, j'ai l'impression que ça prend. Et je trouve ça excitant, en fait, de pas être non plus trop dans le carcan, dans le carcan de la recherche.
Pour celles et ceux qui te suivent sur Instagram, ils et elles savent que tu te prononces régulièrement sur les faits d'actualité. Tu es assez active aussi là-dessus. Comment tu t'analyses ce qui est en train de se passer actuellement en France politiquement ?
Moi, je suis très effrayée par ce qui se passe en France, mais depuis longtemps, en fait. Mais comme toi, j'imagine, et comme beaucoup de personnes, puisque je pense que quand notre métier, c'est de lire et d'observer aussi, encore une fois, sur le terrain, les choses, on voit ce qui se passe. C'est-à-dire, pour moi, c'est vraiment deux tectoniques. C'est la tectonique des plaques, quoi. C'est-à-dire que y a eu un mouvement progressiste, il y a eu une libération de la parole, il y a à la fois des courants très forts et féministes, etc. Et puis, évidemment, il y a des courants contraires qui se sèment partout et qui... Mais je pense que au-delà de ça, moi, ce que j'observe vraiment, c'est depuis la pandémie, en fait, la pandémie a vraiment remis beaucoup de choses en question. Parce qu'à la fois, comme le dit Butler, on était très connectés en termes d'organisme. Tout d'un coup, on avait une sorte de destin collectif. On était liés à une maladie. Il y avait quelque chose où tout était à l'arrêt. Et je pense qu'il y avait un peu des espoirs à ce moment-là que la société allait changer. Il y avait tout le monde se fondait de grands discours humanistes, etc. Et puis après, l'économie a repris de façon encore plus agressive. Je pense que ça, les gens étaient dans une santé mentale terrible, en fait. La crise économique est venue tuer tout le monde, plus la guerre. Et en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens ont peur, en fait. Et donc, il y a la peur réac et conservatrice. Il y a la peur progressiste. Elles se clashent assez fortement. Et c'est dur de trouver une direction commune, et celle qui gagne, malheureusement, c'est celle qui est la plus populiste, j'aime pas trop le mot, mais voilà, qui donne des solutions assez radicales, virons les immigrés, on aura plus de travail, ou des slogans assez simples qui finalement agissent sur les peurs des gens de ne pas avoir de travail, etc. Donc on voit bien ce qui est en train de se passer, hein. Avec le gouvernement Macron, qui pour moi n'est ni plus ni moins maintenant qu'un gouvernement d'extrême droite.
Ouais, c'est clair. Et puis en plus, on voit aussi en termes de droit de manière générale qu'il y a un recul très inquiétant, hein, avec pourtant un discours qui dit oui, on va constitutionnaliser le droit à l'IVG, par exemple, des choses comme ça. On fait plein de choses pour lutter contre les violences. Là, je parle plus pour les questions de féministes, etc. Mais effectivement, c'est très inquiétant. Mais il y avait autre chose aussi que je voulais aborder avec toi, notamment par rapport à la période actuelle, hein, politique actuelle, puisque les médias jouent un rôle très important. Mmh. Et on le sait, nous, en tant que journalistes, que finalement, le récit que l'on porte, le récit que l'on transmet, a un impact réel sur les idées que les gens peuvent se forger. Et moi, je vois, par exemple, qu'il est très difficile de se faire une place et d'imposer un récit alternatif à celui qu'on nous sert matin, midi et soir, qui est par ailleurs composé de mensonges et de choses complètement absurdes et irréalisables et d'ailleurs non souhaitables, faut bien le dire. Tu as toi cette critique des médias et tu montres qu'en fait l'environnement médiatique aujourd'hui est encore totalement gangréné par une vision du monde qui est celle de l'homme blanc, cis, hétéro, relativement conservateur. C'est encore vrai aujourd'hui en 2024
Ah bah oui, plus que jamais. Alors c'est qu'on nous donne l'illusion parce qu'on nous donne des sujets sur le MeToo, quelles leçons tirer du MeToo, etc. de temps à autre, qu'on nous fait la fleur de nous interviewer de temps à autre. Mais en vérité, il n'y a pas de réflexion structurelle, en fait. Dans les rédactions, par exemple, où il y a pour moi ce que j'appelle une sorte de, je ne sais pas comment dire, mais disséminer un peu dans tous ces médias...
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Vieux type de gauche, quoi. Le vieux type de gauche qui, en fait, est à droite est devenu capitaliste parce qu'il a joui sans entrave un peu trop et qu'il est dans des logiques de pouvoir et de vente plus que dans des logiques altruistes et qu'en fait, il fait barrage aux idées nouvelles, entre autres des jeunes générations de journalistes. Donc, y a ça que j'ai d'ailleurs beaucoup critiqué dans Féminin, c'est-à-dire vraiment le prétendu progressisme de gauche qui, en fait, n'en est pas un, qui s'est embourgeoisé et qui, je trouve, pourrit beaucoup nos luttes. Donc il y a ça et puis puis en plus ce qui est très inquiétant avec les médias, au-delà du sexisme, au-delà de cette gauche en demi-teinte, il y a aussi l'arrivée de Bolloré, enfin l'arrivée, elle est plus qu'annoncée, elle est l'extension du domaine de Bolloré qui est extrêmement inquiétante. Et là avec Léa Malestra de Mécréante, on a fait une tribune par exemple pour dénoncer le double standard dans les médias dans le traitement de la situation en Israël et en Palestine. Et parce que c'était affligeant de regarder le traitement médiatique du 7 octobre, de la point de vue des médias de Bolloré, tous plus racistes les uns que les autres, avec cette peur effroyable du grand remplacement, et puis surtout ce manque d'esprit critique, c'est-à-dire cette moi, ce qui me fascine en France, c'est des penseurs et penseuses qui sont là depuis 30 ans, qui n'ont jamais changé de position, alors que quand même la pensée, c'est un mouvement, hein, et qui campent toujours sur ces idées de laïcité. On est vraiment sur une espèce de front de gens qui ne réfléchissent jamais, qui se remettent jamais en question. On parlait tout à l'heure de l'important d'être vulnérable, mais c'est des gens qui ne disent jamais qu'ils se sont trompés, qui n'évoluent jamais et qui restent, qui sont vraiment en train, pareil, de pourrir, enfin de stopper le débat en fait dans les médias. Et donc, par exemple, bon, je prends la situation Israël-Palestine. En ce moment, on voit bien à quel point il n'y a aucune critique de l'impérialisme, il n'y a aucune critique de l'Occident, qu'on a créé des sortes de binarités terribles et racistes, des amalgames tellement violents que en fait, tout le monde en paie le prix, que la liberté d'expression est complètement sabotée en fait. Et c'est vrai qu'il manque, je trouve, un observatoire en fait des médias, quelque part une instance qui puisse dire bah là ça ne va pas en fait.
Ça s'appelle l'ARCOM.
Il y a l'ARCOM pour la télé.
Ouais, pour la télé uniquement.
Mais bon, déjà, alors je crois qu'elle a été saisie quand Caroline Forest a hiérarchisé des vies civiles, mais sinon on en entend quand même très peu parler. Je crois que Mathilde Panot l'a aussi sollicité dans la rediffusion du procès. Afrique, enfin, sur le, qui avait apparemment le discours d'Afrique du Sud sur les actes génocidaires d'Israël n'ont pas été diffusés in extenso, tandis que voilà, la parole israélienne a été diffusée en intégralité sur les, dans les médias. Donc je crois qu'il y, y a eu un appel de l'ARCOM. Mm. On a saisi l'ARCOM là-dessus. Mais c'est trop, c'est trop peu fréquent, c'est sur des petits coups comme ça. Il faudrait, moi, je trouve qu'il faudrait vraiment une instance de régulation plus forte, même dans la presse, quoi, où on puisse, parce que si vous, dès que vous allez à l'encontre aussi, dès que vous critiquez les médias, ce qui par exemple était mon cas avec le deuxième livre, vous n'allez pas avoir de presse, par exemple. Ce n'est pas un milieu qui se remet en question, c'est une congrégation, quoi. C'est comme les flics, c'est comme... C'est-à-dire qu'une fois qu'ils se sentent un peu attaqués, en fait, vous êtes sûr qu'ils vont se rétracter et que jamais ils vont vouloir ouvrir le dialogue. Or, je trouve que c'est aujourd'hui, c'est hyper important, d'autant plus avec ce qu'on disait juste avant sur Bolloré, etc.
Ouais, c'est clair, mais les mécanismes que tu décris, c'est des mécanismes qui sont également à l'œuvre en politique, en fait. Et on comprend aussi qu'il y a une certaine porosité entre le monde médiatique et politique. Et en fait, quand on voit, enfin, moi, je m'en rends compte, puisque il se trouve que j'ai quand même la chance d'intervenir sur une émission qui ne passe pas à la télé, qui est sur Twitch, qui s'appelle Backseat. D'ailleurs, ça reprend la semaine prochaine. Très content. D'arriver vraiment à challenger les personnalités politiques qui viennent et qui sont invitées dans l'émission. Et quand je me suis retrouvée dans des médias plus traditionnels et que je les ai autant challengés, ça a été excessivement compliqué. C'est-à-dire que soit, ça m'est arrivé une fois sur France Info avec Gilles Bernstein, soit on m'a dit « tu peux pas dire ça ». C'est-à-dire que le présentateur pendant l'émission m'a dit « tu ne peux pas dire ça », un député. Ce qui était quand même assez hallucinant. Soit c'est la personne qui est interviewée qui réagit en disant que je dis n'importe quoi, que je suis militante, etc. Et ça m'est arrivé pas plus tard que la semaine dernière avec un député Renaissance. Et là, pour le coup, la présentatrice a pris ma défense en disant que j'ai le droit de dire ce que j'ai envie de dire, alors que j'étais juste en train de remettre en question, en fait, des faits et une politique publique qui ne fonctionne pas en matière d'éducation. Enfin bon, bref. Donc c'est à dire à quel point ils sont même, enfin je veux dire, les personnalités politiques sont complètement habituées à ce qu'on leur serve un peu la soupe, quoi, enfin dans les médias. Et il n'y a pas de répondant réel, il n'y a pas de voilà, on cherche pas à leur faire dire la vérité. Parce que moi, quand j'ai une personnalité politique qui s'assoit en face de moi du gouvernement, et je l'ai fait avec Clément Beaune, et qui me dit on lutte contre l'extrême droite, et que je lui demande ok, dis-moi comment, et qu'il n'y a pas de réponse derrière, je lui repose la question, en fait. Donc, on le voit bien que dans les médias traditionnels, ce n'est pas possible. Donc, c'est très inquiétant, effectivement, pour faire avancer, avancer la pensée et toute la construction, en fait, de l'esprit critique dans la société, dans nos démocraties. Un point que tu as souligné et qui me semblait vraiment très intéressant, tu disais dans les rédactions aujourd'hui, lorsqu'il y a des journalistes d'une nouvelle génération qui débarquent, on leur coupe l'herbe sous le pied, on les censure. Tu parlais de ton expérience avec Féminin. Est-ce que tu veux bien nous en dire davantage, nous expliquer un peu ce qui s'est passé?
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la censure et il y a l'autocensure aussi, qui est importante chez les journalistes. Parce qu'il y a plein d'enjeux aussi qui nous échappent, des enjeux que je raconte dans Féminin, après je raconterai la promo, mais des enjeux d'annonceurs, par exemple, des enjeux d'encarts publicitaires qui sont organisés par Havas, tenus par Bolloré.
Tiens donc. Attends, ça mérite un petit...
Il est bien, celle-là. Tiens. Donc voilà, mais bon, il n'y a pas que Bolloré, hein. Par ailleurs, il y a Arnaud, enfin voilà, il y a quand même aussi, par exemple, tous les magazines sont pieds et poings liés à LVMH, puisque en fait, c'est eux qui donnent les pubs, comme Chanel. Voilà, il y a tout un système économique aussi dont il faut être bien conscient et consciente quand on achète des journaux, qui fait qu'il y a clairement une forme de censure sur certains sujets, puisqu'on ne peut pas s'attaquer, par exemple, à Bernard Arnault. On ne peut pas s'attaquer à plein de... ou à la mode, on ne peut pas s'attaquer à plein de sujets quand même qui sont importants sans en plus aller dans une critique radicale, hein, j'entends, juste ouvrir le débat en tout cas.
Donc, ça t'est arrivé toi d'être censuré ou de t'auto-censurer?
Bien sûr, ouais, plein de fois.
T'as des exemples concrets peut-être?
En fait, il y a une époque où on m'a demandé d'écrire sur la mode pour apporter un point de vue un peu plus sociaux en fait, sur le sujet. Bon, déjà c'est impossible, hein, parce que en vrai, c'est des tendances, donc c'est marketing, donc il n'y a pas vraiment de sociologie du vêtement, c'est-à-dire que si vous regardez dans la rue, oui, si vous regardez sur les défilés, non. Oui, j'étais en permanence... alors, c'est surtout que l'autocensure, c'est qu'on sait qui achète les pages de pub Et de toute façon, on ne dira jamais de rien de négatif sur aucune marque. Mmh. Et en fait, la seule fois, par exemple, où ça m'est arrivé, où j'ai quand même fait l'affront de le faire, deux fois, j'ai eu appel des attachés de presse, puis j'ai fini dans le bureau du directeur de la rédaction. Et en fait, le numéro d'après, on a fait cinq pages sur la personne en question parce qu'elle arrivait chez Vuitton. Quoi, voilà. Et donc, ça a carrément participé clairement à laisser certains champs libres de faire ce qu'ils voulaient, hein, et de cibler les jeunes agressifs sans qu'il y ait aucune critique qui soit émise. Ça a permis aux publicitaires d'utiliser nos luttes, le féminisme, tout ça, en faisant du washing dans tous les sens et personne ne disait rien. Enfin, ça a eu vraiment... Alors maintenant, les gens sont plus conscients et passent aussi par d'autres médias. Mais à l'époque, il y a 10 ans, c'était moins le cas. Et c'est vrai qu'on a vendu beaucoup, beaucoup d'infos censurées, de fausses infos. Par exemple, même dans certains journaux, je voyais apparaître des publi-reportages de Chanel déguisée, quoi. Fait par plusieurs journalistes dans différents journaux. Moi, je le sais maintenant parce que j'en suis sortie et que j'ai un œil critique dessus, mais ça reste assez tabou. D'ailleurs, mon livre a connu un peu des déboires à cause de ça. Voilà.
Oui, ton livre, comment il a été non accueilli ?
Non accueilli. C'est un peu compliqué parce que, dans ce livre, je raconte justement tout ce système de magazines qui mettent en couve le féminisme, mais qui derrière essorent les journalistes femmes et surtout sont dans des telles logiques capitalistes, en fait, des logiques de pouvoir, de survie, en fait, des titres, hein, qu'elles ne font plus du tout attention à l'objectif premier qui est finalement d'informer correctement. Donc, on se retrouve dans Féminin, en l'occurrence, c'est l'histoire d'un journal féminin en crise et arrive à la tête un homme en termes de directeur de la rédaction. Donc déjà, c'est un homme à la tête d'un féminin, c'est... Voilà, mais ça arrive plein de fois. Et cet homme, on le découvre au fur et à mesure, n'en a rien à faire, en fait, des droits des femmes, mais est là parce que, justement, il est très connecté avec les grands patrons et qu'il peut ramener des pages de pub dans le magazine. Et donc, on en est quand même à ce degré de non-sens parfois. Et cet homme va être pervers et toxique et va harceler les membres de la rédaction et il va gagner, en fait, puisque Frankie, l'héroïne, va avoir une relation avec lui et va être sous son emprise, écrabouillée puis licenciée, tandis que lui va s'en sortir avec les honneurs. C'est inspiré de mon histoire. J'ai été licenciée abusivement par mon ancien employeur. Un licenciement lié à mon genre. Il se trouve que j'ai été au prud'homme contre eux. J'ai pas été au pénal, comme beaucoup de gens d'ailleurs. J'ai lu que beaucoup de gens avaient peur, dans les cas de harcèlement sexuel, d'aller au pénal et préférer aller au prud'homme. J'ai gagné. Mais si vous voulez, c'est... Donc moi, la victoire dans ce procès a été immense parce que vraiment, la juge a dit c'est n'importe quoi ce qui s'est passé. Mais pour autant, le livre a coincé au niveau des rédactions puisqu'il remet en question un système et qu'il dénonce surtout des actes sexistes au sein de certains journaux, et je pense que mon magazine était loin d'être le seul. D'ailleurs, quand mon livre est sorti, il y a eu des cas de harcèlement à France Culture, enfin, en fait, en gros, il y a du harcèlement partout, hein. Donc je racontais cette dualité-là d'une façade féministe et progressiste, et derrière, en fait, la réalité de l'exploitation des femmes, surtout dans des magazines liés aux questions féminines. Féministe.
Et du coup, de fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a eu très peu de promos pour cet ouvrage, alors que tu venais de sortir un livre qui avait totalement cartonné et que tu pouvais t'attendre à avoir tout autant de succès avec ce nouvel ouvrage, avec Féminin. Et tu me disais tout à l'heure, un peu en off, que finalement, tu l'as un peu faite toute seule, ta promo.
Oui, ça a été... quelque chose qui s'est passé que je ne peux pas vraiment raconter, mais qui est très grave et qui a participé à étouffer ma voix. Ce type, en l'occurrence, ça je peux le dire, a menacé par voie interposée de me traîner en diffamation, a répandu des choses fausses sur moi. Et il est ami avec beaucoup de gens de pouvoir. Et surtout, il est passé par beaucoup de rédactions de journaux et de magazines. Ce qui fait que, du coup, tout le monde était un peu coincé parce que parler de mon livre, ça voulait dire dénoncer quelqu'un qu'on a mis sciemment à la tête d'une rédaction. Et il est passé de groupe en groupe et tout le monde connaissait un peu... son CV, entre guillemets, c'est-à-dire quelqu'un qui traitait très mal les femmes. C'est-à-dire leur envoyer des textos déplacés, les placardiser, tyranniser, harceler sexuellement. Mais en fait, ce qui est fou, c'est qu'en France, déjà, les cas de viol, vous voyez, on voit bien avec PPDA, etc., sont à peine crus, en fait. C'est-à-dire que... Donc, imaginez les cas de harcèlement, comment tout le monde s'en bat. Enfin, en fait, c'est ça, la vérité. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est déjà en train d'essayer de faire comprendre qu'un homme qui a violé des dizaines et des dizaines de femmes ne devrait pas avoir pignon sur rue. Alors, expliquer qu'un homme qui harcèle sexuellement, on se dit, bah là, c'est vraiment rien, quoi. Pour la France, c'est la base, en fait. C'est ça aussi, c'est qu'on s'est dit, bah, c'est pas grave de passer son livre sous silence parce que c'est que du harcèlement. Mmh. Et justement, moi, c'était important d'écrire ce livre pour dire que, en fait, le harcèlement, c'est très grave parce que ça vous détruit psychiquement, ça vous dégoûte de votre métier. Ça participe très clairement aux inégalités puisque, en fait, quand une femme est draguée en permanence par ses collègues ou par son patron, en fait, elle se retrouve souvent dans des espèces de conflits d'intérêts où soit elle accepte ou soit elle n'accepte pas, mais dans les deux cas, elle se fait saquer. Enfin, je veux dire, ça a des conséquences désastreuses pour son épanouissement dans la sphère professionnelle, mais en fait, on s'en fiche. Et c'est comme si c'était un non-sujet. D'ailleurs, les plaintes aboutissent rarement. Enfin, vous me direz, les plaintes pour vol non plus. Mais, et donc, ce livre commence d'ailleurs par un procès. Mais il commence par l'héroïne, et c'est inspiré de ce que j'ai vu, qui voit le procès de quelqu'un d'autre pour harcèlement avant elle. Et la femme est dans un état maigrissime, et elle va perdre, etc. Et c'est la vérité, en fait, de ce qui se passe aussi. C'est qu'on en est à un tel point... où on n'arrive même pas à montrer les évidences terribles que passe à l'as aussi nombre de sujets.
Oui, alors que c'est révélateur de tout un système, en fait. C'est ce que tu cherches à montrer aussi, c'est que c'est systémique. Ce n'est pas des cas isolés, c'est vraiment, ça relève de tout un système.
Bah, c'est un système qui passe par plein de différentes formes, en fait. Et c'est ça qui, en fait, moi, ce qui aussi, je pense, a dérangé, c'est que mon personnage, je reviens sur le personnage de gauche, et de gauche, censément, il est ami des femmes, il est féministe, un homme féministe, on adore. mais en tout cas, il a vraiment une étiquette qui est une couverture qui est celle-ci. Et en fait, en vrai, c'est quelqu'un qui est aussi misogyne que les autres et qui se sert de son pouvoir pour écraser, en fait, et qui est soutenu par un boys club dans les hauteurs. Et que, en fait, on se rend compte que même dans les magazines féminins, finalement, ces titres sont tenus par des hommes. Et donc, ça pose aussi la question de la liberté d'expression des femmes, au final, puisqu'on voit bien que derrière tous les médias, généralement, les gens qui amènent de l'argent sont des hommes. Et qu'on ne peut pas dire qu'à partir de là, il y a une vraie liberté d'expression. Ou alors, on fait comme toi et on crée son propre média, mais on galère financièrement. Et donc...
faites des dons.
Voilà, faites des dons. Mais c'est ça le truc, c'est que soit c'est la précarité de ce qu'on vit, parce qu'on a décidé que c'était plus possible. Moi, j'étais dégoûtée du journalisme. Je suis partie, alors que c'était mon métier vraiment... le métier qui m'a forgée, quoi, en fait. Et ça m'a profondément atteint. Et je suis partie. Enfin, j'ai été licenciée, mais ensuite, il y a eu cette promotion horrible. Et là, j'ai dit, mais en fait... Enfin, c'est pas possible, quoi, de me silencier une seconde fois. Et voilà, ça m'a dégoûtée de mon métier. C'est horrible, quand même. Enfin, moi, j'ai grandi avec ce métier. J'avais une confiance inouïe en ce métier. Et c'est vrai que c'est... Je pense que ça dégoûte énormément de femmes, mais que les solutions alternatives, elles sont précaires. Voilà. Et c'est... Donc, moi, peut-être qu'il faudrait se rassembler à un moment donné pour créer une forme, je ne sais pas. Mais où trouver les financements, enfin, c'est...
Mais oui, excellente question. Écoute, Claire, si tu as une réponse, je veux bien que tu m'accompagnes en mission de conseil pour trouver de l'aide pour Popol. Mais effectivement, c'est d'ailleurs ce que tu disais aussi dans cette interview de Mademoiselle. Tu disais, en fait, lorsqu'on a une véritable parole politique et qu'on cherche à avoir une parole politique un peu alternative, en quelque sorte, j'aime pas trop le terme, enfin, il n'est pas tout à fait adapté, mais on est précaire,
bah oui,
précarisé.
Bah oui, parce que déjà, on prend des risques. C'est-à-dire que moi, clairement, je vais à l'encontre de beaucoup de discours de pouvoir, mais même pas de pouvoir. Enfin, je parle de. Il y a des codes, en fait, à respecter. Voilà. Il y a des choses, par exemple, je dis sur le féminisme, c'est faux. Entretenir un féminisme blanc assez bon teint, qui finalement est un féminisme assez néolibéral, et pas s'attaquer à certains sujets, par exemple. Si vous commencez à parler du colonialisme, si vous commencez à parler, à aborder certains sujets qui, pour moi, sont centraux aujourd'hui dans nos luttes, bah, en fait, c'est très mal vu. En fait, il faut pas dépasser les bornes, en fait. Il faut quand même rester dans une certaine ligne directrice dessinée finalement par que des hommes qui sont à la tête de ces titres, en fait. Et voilà, et c'est vrai que... Alors, tous les titres ne sont pas achetés non plus, et il y a des super journalistes dans plein de médias, hein, mais il ne faut pas non plus faire un paysage noir des choses. Mais je pense que même pour ces journalistes, parfois, c'est dur. Et qu'il y a d'autres alternatives encore à trouver.
Ouais, on cherche. Tu te dis journaliste militante ou militante journaliste?
Je suis assez hybride, quoi, autrice. Je trouve qu'autrice, ça recouvre un peu tout. Mais oui, je reste... Là, je me remets au journalisme. Et voilà, c'est... Oui, c'est... En fait, j'ai vu avec Instagram, effectivement, que j'aime... Ça m'énerve, en fait, par exemple, comme toi, quand les choses sont mal couvertes ou que... alors, ce n'est pas toujours le cas. Il y a des super papiers aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai besoin de m'exprimer sur l'actualité et qu'effectivement, je reviens petit à petit au journalisme. Au début, je le faisais à côté de mes livres sur Instagram. Et puis maintenant, j'y reviens un peu pour de bon en cherchant justement d'autres médias. Mais bon, il y a des chaînes qui restent chouettes et des Mediapart, Arte, enfin voilà, des médias qui sont super. Après, ils sont minoritaires.
Ouais, c'est clair, ils sont peu nombreux, mais ils sont effectivement super chouettes. Heureusement qu'il y a ça. Et puis, heureusement qu'il y a des nouveaux médias qui se créent, évidemment. J'en rajoute toujours une couche, hein. Je suis lourde, pardon. Petite question aussi que j'aime bien poser à mes invités sur ce podcast. C'est quoi ta définition du féminisme?
Alors là, c'est la question...
Attends, on n'avait pas essayé celui-là encore.
C'est quoi ma définition du féminisme? Pour moi, c'est vraiment construire et détruire tous les systèmes d'oppression, en fait. Mais pas que pour nous-mêmes. C'est ça, et je précise, c'est justement... pour moi, c'est... Avant tout pour les autres aussi, parce que le féminisme à la carte qui n'est là que pour servir nos intérêts, ça n'a pas d'intérêt. Et donc, c'est pour ça que, voilà, c'est le féminisme, ça mène à l'anticapitalisme, ça mène au postcolonialisme, ça pose toutes les questions des systèmes d'oppression, en fait. C'est une façon de penser et une façon de réfléchir à justement déconstruire ces systèmes de pouvoir et de rapport, en fait, d'abus de pouvoir, en fait. Voilà.
Ouais, je suis complètement d'accord, bravo.
Oui, ça te va, bon,
okay. Excellente réponse, bravo, bravo. Attends, on n'a pas un petit clap-clap?
Ah, tu manies avec talent le...
Ouais, je commence à connaître un peu mon nouvel outil de travail qui est magnifique. Super, Claire, merci beaucoup. C'était un très bel entretien.
Merci à toi.
Ça t'a plu?
Bah ouais, c'était super, j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises.
Non, bah écoute, c'est les auditoristes qui jugeront, mais je ne pense pas, non, je ne pense pas.
Donner de l'argent.
Oui, voilà, alors ça, oui, alors attends, on va essayer de remettre le jingle. Magnifique. Merci beaucoup,
merci à
celles et ceux qui nous ont écoutés aussi et qui nous écoutent fidèlement, régulièrement, tout ça. Un petit mot de la fin, qu'est-ce que tu as envie de partager avec nous? Une actu, une idée, un coup de gueule, ce que tu veux.
Non, je voulais juste dire que j'ai été un peu négative pendant tout ce podcast, mais qu'il y a beaucoup d'alternatives et surtout il y a une envie, je trouve. Et par exemple, sur la sortie de mon livre, donc la promotion a été compliquée, mais il y a eu énormément de femmes qui se sont liées, qui m'ont invité à des podcasts. Et il y a eu finalement, le livre a très bien vendu. Et donc, il y a la preuve quand même qu'on peut complètement contourner le système. En fait, quand on en a envie, et donc c'est possible. Et voilà, j'avais envie quand même de finir sur une note un peu positive, parce qu'en fait, au final, ce dont on se rend compte quand on fait ce genre de livres qui sont assez polémiques, ou les tribunes comme j'ai fait récemment dans Manifesto 21, j'avais oublié de préciser, sur le double standard dans les médias, on se rend compte qu'on est très nombreux. Par exemple, la tribune qu'on a faite avec Anne, elle a réuni 700 signataires. Et donc, en fait, moi je crois dans le collectif, en fait. Aujourd'hui, je ne crois plus dans des modèles un peu néolibéraux, même dans l'engagement, en fait, où on est tous un peu en concurrence les uns les autres, etc. Je crois vraiment à un système d'entraide et de collectif et quand fédéré autour de ces idées. Je trouve que c'est vraiment le truc, moi, qui me touche le plus et qu'on dialoguait autour. Et je pense que c'est ça, voilà, c'est un peu basique, mais je crois que c'est l'avenir, en fait, de nos sociétés.
Moi, je trouve que c'est trop beau pour la fin. C'est un très beau mot de la fin. Merci.
Merci.
Je pense qu'on peut terminer là-dessus et ça donnera certainement des idées à celles et ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup Claire.
Merci Léa.
Merci, à bientôt pour un nouvel épisode de Popple Talks. Je précise aussi à celles et ceux qui nous écoutent et à celles et ceux qui râlent et qui en ont marre de ne pas entendre de Popple Show, le podcast d'actualité politique préféré de celles et ceux qui aiment Popple, évidemment, la politique et le féminisme, que ça va bientôt reprendre. Voilà, ce n'est qu'une question de semaine. On est en train de travailler sur une nouvelle identité sonore. C'était une des promesses de la campagne de crowdfunding. Donc là, il y a encore quelques ajustements et puis après on reprendra vraisemblablement en février et tous les dimanches soirs vous pourrez enfin écouter votre petit podcast d'actualité politique préféré. À bientôt et merci à celles et ceux qui nous soutiennent. À bientôt.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.